L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 12 novembre 2012. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voici le verset thème de l'étude. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. En écoutant cet article, demandez-vous, quels avantages y a-t-il à ne connaître ni le jour ni l'heure de la fin? Comment les oins veillent-ils? Comment nous montrer prêts pour la venue de Christ? Paragraphe 1 à 3, question A. Quelles situations fictives nous permettent de comprendre la leçon à tirer de deux paraboles de Jésus? Question B. À quelles questions nous faut-il répondre? Imaginez qu'un haut fonctionnaire vous demande de le conduire à un rendez-vous important. Quelques minutes avant de passer le prendre, vous vous apercevez que vous n'aurez pas assez d'essence pour le trajet. Vous vous dépêchez d'aller faire le plein, mais pendant ce temps, le fonctionnaire arrive, et ne pouvant attendre, il demande à quelqu'un d'autre de l'emmener. À votre retour, vous vous rendez compte qu'il est parti sans vous. Imaginez à présent que vous êtes vous-même un personnage haut placé. Vous avez choisi trois hommes compétents pour qu'ils se chargent d'une affaire qui vous tient à cœur. Une fois que vous leur avez donné des explications, les trois acceptent volontiers la mission. Pourtant, lorsque plus tard vous venez aux nouvelles, vous constatez que seuls deux d'entre eux se sont acquittés de leur tâche. De surcroît, celui qui n'a rien entrepris se cherche des excuses. À vrai dire, il n'a même pas fait l'effort d'essayer. Dans chacune de ces situations, quel serait votre sentiment? Dans les paraboles des dix vierges et des talents, Jésus s'est servi de situations semblables pour montrer pourquoi, durant le temps de la fin, certains chrétiens oints se révéleraient fidèles et avisés, et d'autres non. Soulignant la leçon à tirer, il a dit « Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire le moment précis où il viendrait exécuter le jugement divin sur le monde de Satan. » Matthieu 25, verset 13. Cet avertissement nous concerne directement. Quels avantages y a-t-il à veiller comme Jésus nous y a encouragés? Quel chrétien se montre prêt? Et que nous faut-il faire pour rester vigilant? Quels avantages y a-t-il à veiller? Paragraphe 4, question. Pour rester vigilant, faut-il forcément connaître le jour et l'heure de la fin? Expliquez. Lorsqu'on travaille dans une usine, qu'on vient consulter un médecin ou qu'on prend les transports en commun, il est nécessaire de respecter un horaire convenu. Par contre, dans d'autres circonstances, quand on combat un incendie ou qu'on participe à une opération de secours après une catastrophe, surveiller sa montre risque d'être source de distraction, voire dangereux. Dans ce genre de situation, il est de loin préférable de se concentrer sur l'activité en cours plutôt que de s'attacher à respecter un certain horaire. Alors que le système actuel touche à sa fin, il n'a jamais été aussi urgent de parler des dispositions que Jéhovah a mises en place en vue du salut. Pour un chrétien, rester vigilant ne veut pas dire avoir les yeux rivés sur le calendrier. D'ailleurs, ne connaître ni le jour ni l'heure de la fin présente au moins cinq avantages. Paragraphe 5, question. Qu'est-ce que le fait d'ignorer le jour et l'heure nous permet de révéler? Premier avantage, ne pas savoir quand la fin viendra nous permet de révéler ce que nous avons réellement dans le cœur. Cette ignorance nous honore, car elle nous permet d'exercer notre libre arbitre et de choisir d'être fidèles à Jéhovah. Même si nous espérons fortement survivre à la fin du système actuel, nous servons Dieu par amour pour lui, pas juste pour obtenir la vie. Nous lisons en psaume 37, verset 4. Délecte-toi également, Jéhovah, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Nous prenons plaisir à faire sa volonté, et nous sommes conscients qu'il nous enseigne pour notre profit. Nous ne trouvons en aucun cas ses commandements pesants. Paragraphe 6, question. Quand nous servons Dieu par amour, que ressent-il et pourquoi? Deuxièmement, ne connaître ni le jour ni l'heure nous offre la possibilité de réjouir Jéhovah. Quand nous servons Dieu par amour et non parce que la fin est en vue ou par désir d'obtenir une récompense, nous lui donnons des arguments pour répondre aux critiques infondées de Satan, son ennemi. Nous lisons en Proverbe 27, verset 11 « Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. Compte tenu de toute la souffrance dont ce dernier est responsable, nous sommes heureux de prendre parti pour la souveraineté de Jéhovah et de rejeter la domination malveillante de Satan. Paragraphe 7, question. Selon vous, pourquoi est-il souhaitable de ne pas vivre pour soi-même? Troisièmement, servir Dieu sans avoir de date précise à l'esprit nous encourage à mener une vie de sacrifice. Certains de nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu pensent eux aussi que ce monde n'en a plus pour longtemps. Craignant une catastrophe qui pourrait se produire d'un moment à l'autre, ils adoptent cette ligne de conduite « Mangeons et buvons, car demain, il nous faudra mourir. » 1 Corinthiens 15, verset 32. En ce qui nous concerne, nous ne vivons pas dans la crainte, pas plus que nous ne cherchons à satisfaire nos désirs égoïstes. Au contraire, nous nous renions nous-mêmes et employons généreusement notre temps, notre énergie et nos autres ressources pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous lisons en Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne son poteau de supplice et me suive continuellement. » Nous trouvons du plaisir à servir Dieu, notamment lorsqu'il s'agit d'aider autrui à le connaître. Paragraphe 8, question. Quel épisode biblique montre qu'il nous faut développer notre confiance en Jéhovah et en sa parole? Ignorer le jour et l'heure de l'intervention divine comporte un quatrième avantage. Cela nous incite à compter davantage sur Jéhovah et à faire de notre mieux pour mettre en pratique sa parole. La tendance à compter sur nous-mêmes est un trait dominant de notre nature pécheresse. Paul a adressé cette mise en garde à tous les chrétiens, « Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. » Il venait d'évoquer les 23 000 Israélites qui avaient perdu la faveur de Jéhovah très peu de temps avant que Josué ne fasse entrer la nation en terre promise. Ces choses leur arrivaient comme exemple, a-t-il ajouté, et elles ont été écrites pour nous avertir, nous sur qui les fins des systèmes de choses sont arrivées. 1 Corinthiens 10, versets 8, 11 et 12. Paragraphe 9, question. Comment les épreuves peuvent-elles nous affiner et nous rapprocher de Dieu? Il existe enfin un cinquième avantage à ne pas savoir quand la fin viendra. Nous pouvons ainsi nous laisser affiner par les épreuves que nous traversons. Nous lisons en psaume 119, verset 71, « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Les derniers jours du système actuel sont vraiment des temps critiques, difficiles à supporter. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Dans le monde de Satan, bien des gens nous haïssent. Notre foi peut donc nous valoir des persécutions. Si nous demeurons humbles et demandons à Dieu sa direction lorsque nous rencontrons des difficultés, notre foi en ressortira affinée, purifiée, comme du métal passé par le feu. Nous ne renoncerons pas et nous deviendrons plus proches de Jéhovah, proches comme nous ne l'avons jamais imaginé. Paragraphe 10, question. Comment faire pour que le temps passe vite? La vitesse à laquelle le temps passe est relative. Quand on est bien occupé, on ne regarde pas sa montre et le temps semble filer à toute allure. Si nous nous absorbons dans l'activité exaltante que Jéhovah nous a confiée, la fin pourrait bien arriver plus vite que nous ne le pensons. Sous ce rapport, les chrétiens oints, dans leur grande majorité, nous ont laissé un exemple remarquable. Rappelons brièvement les événements qui ont suivi l'intronisation de Jésus en 1914 et voyons pourquoi certains se sont montrés prêts et d'autres non. Les chrétiens oints se montrent prêts. Paragraphe 11, question. Après 1914, pourquoi certains chrétiens oints ont-ils conclu que l'époux tardait? Revenons aux deux paraboles de Jésus mentionnées précédemment. Si les esclaves ou les vierges avaient su quand le maître ou l'époux allait arriver, ils n'auraient pas eu besoin de veiller. Mais comme ils n'en savaient rien, il leur fallait être prêts. Même si cela faisait des décennies que les chrétiens oints voyaient en 1914 une année pas comme les autres, ils ne saisissaient pas clairement ce qui se produirait. Lorsque les choses ont pris une tournure différente de celle à laquelle ils s'attendaient, ils ont pu avoir l'impression que l'époux tardait. Un frère a d'ailleurs reconnu « Quelques-uns d'entre nous pensaient sérieusement que nous irions au ciel au cours de la première semaine d'octobre 1914. » Paragraphe 12, question. Comment des chrétiens ouins se sont-ils montrés fidèles et avisés? Songez combien la déception pouvait être grande. Les chrétiens de l'époque avaient attendu la fin et elle n'était pas au rendez-vous. Qui plus est, ils devaient affronter l'opposition liée à la Première Guerre mondiale. Ils ont sombré dans une période de quasi-inactivité, comparable à un sommeil. Mais en 1919, le réveil a sonné. Jésus était venu au temple spirituel de Dieu afin de procéder à une inspection. Toutefois, certains chrétiens ne satisfaisaient pas à ces critères. Ils ont perdu le privilège de continuer à s'occuper des affaires du roi. Matthieu 25, verset 16. Coupables de la même négligence que les vierges sottes, ils ne s'étaient pas souciés de faire le plein d'huile spirituelle. Et de même que l'esclave paresseux, ils ne voulaient pas faire de sacrifice pour le royaume. Cependant, la plupart des oints ont manifesté une fidélité indéfectible à leur maître et un vif désir de le servir, même pendant les dures années de guerre. Paragraphe 13. Question. Quel état d'esprit les chrétiens ouins ont-ils eu après 1914 et qu'en est-il aujourd'hui? Après 1914, cette déclaration digne d'intérêt a figuré dans la tour de garde. Frères, ceux d'entre nous qui ont le bon point de vue vis-à-vis de Dieu ne sont déçus par aucune des dispositions qu'il prend. Ce n'est pas notre volonté que nous souhaitions voir s'accomplir. Aussi, quand nous avons constaté que nous n'attendions pas ce qu'il fallait en octobre 1914, nous avons été contents que le Seigneur ne modifie pas son plan pour nous faire plaisir. Nous ne souhaitions pas cela de sa part. Nous souhaitons uniquement comprendre ses plans et ses desseins. La même humilité et le même attachement à Dieu caractérisent encore les chrétiens ouins. Ils n'affirment pas être inspirés, mais ils sont résolus à gérer les affaires terrestres du Seigneur. Aujourd'hui, une grande foule d'autres brebis, les chrétiens qui espèrent vivre sur la terre, imitent leur vigilance et leur zèle. Révélation 7, verset 9. Comment nous montrer prêts? Paragraphe 14, question. Pourquoi nous est-il salutaire de suivre la direction transmise par l'esclave fidèle et avisé? Comme les chrétiens ouins, les membres de la grande foule suivent scrupuleusement la direction transmise par l'esclave fidèle et avisé que Dieu a établie pour dispenser la nourriture spirituelle. C'est un peu comme s'ils se réapprovisionnaient en huile spirituelle qui provient de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Nous lisons en psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, faisant comprendre aux personnes inexpérimentées. » Jean 16, verset 13, « Cependant, quand celui-là arrivera, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais tout ce qu'il entend, il le dira, et il vous annoncera les choses qui viennent. » Ainsi affermis, ils se montrent eux aussi prêts pour le retour de Christ. Ils restent actifs, même en butte à de cruelles épreuves. Par exemple, sous le régime nazi, des frères internés dans un camp ne disposaient que d'un exemplaire de la Bible. Ils ont alors prié pour avoir plus de nourriture spirituelle. Peu après, ils ont appris qu'un frère qui venait de se faire incarcérer avait réussi à introduire clandestinement quelques numéros récents de la tour de garde en les cachant dans sa jambe de bois. Parmi les survivants se trouvait un frère ouin, Ernst Bauer, qui a écrit par la suite « Il est extraordinaire de voir comment Jéhovah nous a aidés à nous rappeler des pensées édifiantes contenues dans les articles. » Il a conclu « Il est tellement facile de nos jours de se procurer cette nourriture spirituelle, mais en apprécions-nous toujours la grande valeur ?» Je suis convaincu que Jéhovah a en réserve d'abondantes bénédictions pour ceux qui se confient en lui, qui restent fidèles et qui se nourrissent à sa table. Paragraphes 15 et 16, question. Comment le zèle d'un couple a-t-il été récompensé et que pouvez-vous apprendre de ce genre de fait? Apportant leur concours aux frères du Christ, les membres des autres brebis s'investissent dans l'œuvre du Maître. À l'inverse de l'esclave méchant et paresseux de la parabole de Jésus, ils sont disposés à faire des sacrifices et à se dépenser pour soutenir les intérêts du royaume avant toute chose. Prenons le cas de John et Masako. On les a invités à aller prêcher à la communauté chinoise du Kenya. Au départ, ils se sont demandé si c'était vraiment judicieux. Mais après avoir réfléchi et prié à ce sujet, ils ont décidé de déménager. Leurs efforts ont été largement récompensés. « C'est un vrai bonheur de prêcher ici », déclarent les deux expatriés. Ils enseignent la Bible à 7 personnes et ont de nombreuses anecdotes à raconter. Ils résument leurs sentiments en ces termes. « Chaque jour, nous remercions Jéhovah de nous permettre d'être là. » Bien entendu, quantité d'autres frères et sœurs font des choix, prouvant qu'ils sont déterminés à être pleinement occupés au service de Dieu, peu importe quand la fin viendra. Citons les milliers de diplômés de l'école de Gilead devenus missionnaires. Pour savoir à quoi ressemble leur ministère, reportez-vous à l'article « Nous faisons de notre mieux » paru dans la tour de garde du 15 octobre 2001. Tout en découvrant ce qu'est une journée type pour un missionnaire, tâchez de voir comment vous pouvez faire plus au service de Dieu, à sa louange et pour votre joie. Veillez. Paragraphe 17, question. Pourquoi est-il avantageux d'ignorer le jour et l'heure de la fin? Manifestement donc, il est avantageux d'ignorer le jour et l'heure de la fin. Plutôt que d'en être contrarié ou déçu, nous axons totalement notre vie sur l'accomplissement de la volonté de notre Père aimant, ce qui nous rapproche encore plus de Lui. En gardant, figurément parlant, les mains cramponnées à la charrue, nous continuons à servir le Maître sans distraction, et ce pour notre bonheur. Paragraphe 18, question. Pourquoi voulons-nous rester fidèles? Le jour de jugement de Dieu approche à grands pas. Aucun de nous ne veut décevoir Jéhovah et Jésus. Ils nous ont attribué une mission de la plus haute importance en ces derniers jours. Leur confiance nous touche profondément. Nous lisons en 1 Timothée 1, verset 12, « Je suis reconnaissant à Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a donné de la puissance, parce qu'il m'a estimé fidèle en me désignant pour un ministère. » Paragraphe 19, question « Comment nous montrer prêts ?» Que nous espérions vivre au ciel ou sur une terre transformée en paradis, soyons résolus à nous acquitter scrupuleusement de la tâche que Dieu nous a confiée, prêcher et faire des disciples. Nous ne connaissons toujours pas précisément quand le jour de Jéhovah surviendra, mais est-ce vraiment nécessaire? Montrons-nous prêts. Soyons convaincus que, tant que nous compterons entièrement sur Jéhovah et mettrons son royaume à la première place, nous ne serons jamais déçus. Après avoir écouté cet article, que répondriez-vous? Quels avantages y a-t-il à ne connaître ni le jour ni l'heure de la fin? Comment les oints veillent-ils? Comment nous montrer prêts pour la venue de Christ? Fin de l'article.